9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour Bouchra Azouz.
Bonjour Samia.
Merci d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM parler de ce documentaire Algérienne en France, l'héritage, un documentaire qui sera présenté sur France 2 le 2 novembre à 22h40. Soyez à l'écoute, soyez devant votre petit écran. En tout cas, c'est ce que j'ai déjà envie de dire aux auditeurs, aux auditrices qui nous écoutent. Mais parlez de vous d'abord avant d'entrer dans ce documentaire que je présenterai dans un instant. Vous êtes réalisatrice, autrice, documentariste. On vous doit déjà 3 de beaux documentaires qui étaient des documentaires que vous aviez réalisés. C'était le premier documentaire était Nos mères, nos darons, c'était en 2016. Ensuite est venu On nous appelait Beurette en 2018, puis Meuf de la cité en 2021, et ce documentaire qu'on verra sur France 2 très prochainement. À part ça, vous faites beaucoup d'autres choses, bien évidemment. Vous êtes une femme militante, vous êtes présidente fondatrice de l'association des femmes populaires. Vous avez été nommée au conseil d'administration de l'Institut national de l'audiovisuel, de l'INA. C'est dire la reconnaissance de votre profession. Enfin, en 2020, vous intégrez l'ONU Femmes. Voilà une carrière bien remplie dans un engagement. Vous n'arrêtez jamais, Bouchra Azouz?
On ne peut pas s'arrêter quand on a des convictions. Mais voilà, oui, j'ai des convictions, des valeurs qui sont chevillées au corps. Et tout ce que je fais, c'est essayer justement de mettre la lumière sur toutes ces invisibles et donc sur notre histoire, à la fois de l'immigration et des quartiers populaires.
Alors, les femmes dans les quartiers populaires, quand vous en parlez effectivement avec conviction. Mais ça veut dire quoi finalement pour... quand on parle des femmes des quartiers populaires, c'est dire que leur invisibilité était pesante, on ne les reconnaissait pas, on ne parlait jamais d'elles et il a fallu prendre en main, vous l'avez fait avec la réalisation, l'histoire de ces femmes, qui ne sont pas que des femmes de l'immigration d'ailleurs, qui sont des femmes populaires.
Les femmes des quartiers populaires, c'est pour ça que je lis toujours ces deux trajectoires, à la fois l'immigration et les quartiers populaires, et dans cette
ensemble. Pour une même histoire.
Comment ?
Pour une même histoire.
Oui,
dans la
même
grande histoire.
Parce que je pense qu'en fait, c'est de. Enfin, moi, en fait, tout part de mes propres interrogations. Et mes interrogations, elles viennent de ma condition, à la fois de femme, issue d'immigration, arabo-musulmane et des quartiers populaires. Et donc, c'est d'abord en investiguant ma propre histoire que petit à petit, je m'en détache pour proposer une analyse de ce qu'est justement cette immigration au féminin pluriel, comme j'aime à le dire.
De Nos mères, nos darons a donc réalisé en 2016 à aujourd'hui ce documentaire Algérienne en France, l'héritage. Que de chemin parcouru dans votre réflexion aussi justement sur cette reconnaissance et cette visibilité des femmes?
Oui, c'est chemin faisant en fait, parce que c'est vrai que la pensée du féminisme populaire, c'est une pensée empirique en fait. Elle s'appuie sur l'expérience, et de cette expérience naît la connaissance. Et à un moment donné, j'ai réfléchi à me dire de quelle façon puissante je pouvais mettre dans l'espace public cette réflexion qui, comme je le disais, était d'abord une réflexion personnelle, mais qui dépasse le « je » pour aller vers le « nous ». Et moi, ma réflexion, c'est vraiment comment on construit ce « nous » quand à la fois on vient d'une histoire postcoloniale, quand à la fois on vient d'une société qui a colonisé. Et ce « nous-là », c'est une construction commune, en fait. Et c'est chacun, dans son cheminement, doit converger vers ce point-là qui nous unit. Et l'héritage, justement, c'est l'héritage à la fois de nos mères, nos darons, c'est-à-dire quelle a été l'histoire de nos mères dans ces quartiers populaires, ces mères qui sont arrivées dans les années 60, donc qui ont vu naître à la fois ces quartiers, ces cités, et en même temps qui ont écrit une histoire invisible qui a été celle de leur lutte dans les années 70 pour accéder à la contraception, aux avortements, à leur statut de femme et à leur émancipation. Et donc cet héritage-là, il me semble quelque chose de très important à la fois pour nous qui sommes issus de cette histoire, mais aussi de la société pour qu'elle nous regarde autrement.
Et nos mères ont eu des filles et des garçons, et vous êtes aussi issus de cette immigration. Et c'est ce que vous nous racontez dans Filles de Daronne et Fières de l'être. Finalement, c'est votre histoire à vous, au regard de ce que fut effectivement votre mère et ce que sont les darons.
Oui, parce que c'est vrai que vous avez cité tout ce que je fais jusqu'à effectivement avoir intégré le comité d'orientation d'ONU Femmes France, qui est en France. Et en fait, je ne suis devenue ce que je suis que parce que je viens de l'histoire d'abord de ma mère. Et je trouvais qu'il fallait poser cette reconnaissance de nos mères, qui souvent étaient analphabètes, qui souvent étaient dans l'ombre de cette immigration de travail qui était celle de nos pères. Et à un moment donné, cette reconnaissance, pour moi, c'était vraiment important qu'elle s'appuie d'abord sur le récit de ma mère. C'est pour ça ce titre, Fille de Daronne et fière de l'être. C'est oui, vous voyez Bouchra Azzouz aujourd'hui dans les médias, vous voyez mes films, mais n'oubliez pas que tout
elle
cela.
Elle est née d'une histoire singulière.
Voilà, de cette observation depuis l'enfance de ma mère, de ce sujet qui est l'être femme, entre guillemets.
Alors, ce qui est intéressant dans votre travail, Bouchra Azzouz, c'est justement la singularité aussi que vous tenez, auquel vous tenez. C'est-à-dire que dans nos mères de nos darons, des femmes sont interrogées sur leur vie, sur l'intimité, mais il faut gagner, la confiance de votre mère, ça allait sans souci, sans doute, et encore, fallait qu'elle ait envie de parler. Mais les autres femmes, est-ce qu'elles ont parlé facilement dans ce film-là, et ensuite on développera dans ce nouveau documentaire qui passe sur France 2, Les Algériennes en France Héritage. Mais comment les femmes se livrent dans votre travail au quotidien, dans l'association Femmes des Quartiers, dans tout ce que vous portez? Comment vous avez-vous le désir, la volonté qu'elles ne soient plus invisibles et visibles et qu'on les reconnaisse à part entière, mais en même temps faut-il qu'elles se racontent?
Oui, surtout quand elles ont été si longtemps invisibles. Ce n'est pas évident de passer justement de l'ombre à la lumière, à se livrer comme ça des choses de l'intime. Je pense que ce qui a facilité nos mères, nos darones, c'est que la plupart de ces femmes, en fait, me connaissent depuis que je suis née. Donc, elles ont vu
la
aussi
confiance.
Mon cheminement. Donc, la base d'abord d'une confidence, c'est la confiance. Donc ça, c'est la première chose. Et puis alors ensuite, la difficulté, c'était ma mère, hein, parce que c'est très délicat, en fait, de faire parler sa mère. D'abord, c'est pas ma mère qu'à moi, c'est la mère de 10 enfants. Je suis une parmi ces 10. Et donc, ça engage aussi...
La fratrie.
Et donc, je voulais pas, en fait, avoir à pousser ma mère, en fait, dans ce film. Et au départ, pour tout vous avouer, je n'ai pas proposé à ma mère d'être dans le film. Je lui ai dit que je voulais faire un film, pourquoi je voulais le faire. Et je lui ai demandé de me redonner le contact de certaines de ses amies. Et là, c'est elle qui m'a dit, et moi, je t'intéresse pas, en fait. Moi, mon histoire...
Walou,
quoi. tu me proposes même pas à moi qui suis ta mère. Je lui dis, oui, mais maman, c'est compliqué, parce que... Elle me dit, non, c'est compliqué, rien du tout. Elle me dit, je te préviens, si je suis pas dans le film, tu n'es plus ma fille.
Ah, alors
donc,
là...
Donc, voilà, pour moi, c'était important qu'elle ait, elle, ce
c'était
désir.
C'était une belle réponse, en même temps, de dire qu'elle tenait à ce qu'elle soit dans ce film.
Oui, puis ma mère, en fait, ça, elle a tellement été un objet de curiosité pour moi, parce que je voyais, depuis que je suis toute petite, qu'elle n'est pas comme les autres. C'est-à-dire qu'elle est sortie de son rang. Elle est sortie de là où c'était convenu. Elle a toujours été une femme rebelle. Et c'est cette rébellion, moi, qui m'a nourrie. Cette révolte permanente qui l'habite, de ne pas être une femme soumise, de que sa voix compte autant que celle des hommes. Même dans son village, tout le monde a peur d'elle dans son village, alors que toutes les femmes s'effacent. Elle a réussi à s'imposer. Il n'y a pas une décision qui est prise dans son village de naissance sans que ça passe par elle. Tout le monde tremble quand elle parle. Donc voilà, moi, c'est cette rage-là qui m'a nourrie, en fait. Et ma mère, elle avait vraiment ce désir de poser les choses et de poser cette histoire qui était la sienne. Et à partir du moment où elle était dans le film, tout le reste a suivi d'une façon très très fluide.
Les documentaires que vous faites sont des documentaires féministes, engagés. Vous sentez cette âme de l'engagement. On vous imagine pas faire des documentaires animaliers, mais pour être dans le sérieux quand même, cette détermination que vous avez vous porte dans l'écriture, dans le documentaire aussi.
Ben vous savez, moi, je suis comme la plupart des femmes, en fait. C'est-à-dire que je chemine dans ma vie, mais je suis pas quelqu'un qui ose forcément. Et je me suis pas retrouvée, en fait, comme ça, de but en blanc dans l'écriture. C'est-à-dire qu'il a fallu aussi construire la confiance que je pouvais avoir en moi. D'abord, de me dire que, finalement, c'est toutes ces années d'analyse depuis l'intimité de ma propre vie pouvait être partagé et il pouvait y avoir un intérêt de le partager. Et cette démarche-là, elle est très longue, en fait. Donc, c'est d'abord une construction personnelle, d'une confiance en moi, d'avoir confiance aussi dans l'intérêt que cela peut porter de partager cette histoire-là, et ensuite de passer le cap d'écrire, de réaliser et de devenir une militante. Mais moi, je suis devenue militante à 35 ans, je veux dire très tardivement.
Parce que quand on parle d'engagement, on parle d'engagement féministe, d'engagement dans les quartiers populaires. On va revenir dans une deuxième partie de notre rencontre autour de ce film, évidemment, Les Algériennes en France, héritage. Et on parlera aussi de votre engagement avant l'écriture et le documentaire, l'engagement associatif qui vous a aussi porté. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Bouchra Azouz et nous parlons de ce documentaire Algérienne en France, l'héritage, qui sera diffusé le 2 novembre sur France 2 à 22h45. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Bouchra Azouz et nous parlons de son tout nouveau documentaire Algérienne en France, l'héritage, qui sera diffusé le 2 novembre à 22h40 sur France 2. Il s'agit d'un portrait de quatre femmes qui sont des femmes qui se racontent dans une histoire personnelle, une histoire familiale, mais qui s'inscrivent aussi dans la grande histoire, puisqu'elles sont à la fois dans leur singularité, ces femmes, je me tourne vers vous, Bouchra Azouz, mais aussi qui s'inscrivent dans la grande histoire. Comme nous sommes à Beurre FM, on va rappeler aussi que c'était important aussi, vous avez dans ce film, Samia, pour ne pas me nommer, qui est dans ce film, et surtout au travers de Beurre FM. C'est important ce rendez-vous aussi avec la radio depuis toutes ces années qui œuvre aussi sur l'histoire et la mémoire de l'immigration au travers cette femme qui...
Justement, Beurre FM, c'est aussi un héritage. Il faut savoir d'où ça vient et c'était très intéressant d'aller justement retrouver dans les archives de l'INA, qui était partenaire de ce film, les premières images de la construction de cette radio. Et ce qui a été aussi le moteur de cette jeunesse des années 80, qui était en lutte pour l'égalité citoyenne, l'égalité des droits, le début des radios libres, parce qu'aujourd'hui nos auditeurs pensent que toutes ces radios qu'ils écoutent, ce n'est pas le fruit de lutte, mais si, c'est le fruit de lutte pour obtenir des radios libres. Ça a été le grand mouvement des années 80 sous Mitterrand. Et Beurre FM, ça a été pour nos générations une radio d'anthologie, quoi. C'est
qui donnait la parole, qui donnait la visibilité.
Et où on vous retrouve, Samia, toute jeunette, du haut de vos 20 ans, je crois, et qui lance ses premières radios. Pour nous, qui étions des gamins, c'était extraordinaire d'avoir sur les antennes des gens comme nous, qui nous ressemblaient, qui avaient nos problématiques et qu'on découvrait au travers de ces émissions.
Et il y avait d'autres combats aussi qui étaient portés dans le portrait.
Oui, alors aussi la lutte pour le 17 octobre. Moi, ça m'a toujours intriguée de comprendre d'où venait cet engagement profond que vous aviez, comme vous dites, pour ne pas vous nommer dans le film, sur le 17 octobre, puisque vous avez fait quand même partie de ces premières militantes à exhumer cette histoire. Et je savais qu'en tirant le fil, on allait remonter l'histoire de votre propre histoire familiale et de votre papa qui était engagé au FLN à Levallois-Perret, sur toute cette section Clichy-Levallois, et surtout cette lutte, cette marche extraordinaire du 20 octobre, donc 3 jours après le 17 octobre, qui
la
a
marche
été la
des
marche
femmes.
Des femmes algériennes. Donc cet héritage-là aussi, il est important. Alors, c'est vrai qu'on a retenu le 17 octobre parce que c'est une date importante et qu'il s'est passé des choses extrêmement graves ce jour-là et qui nous disent des choses aussi de cette relation extrêmement conflictuelle entre la France et l'Algérie et ces militants pacifiques. Il faut le rappeler, c'était une marche pacifique qui était organisé pour dénoncer ce couvre-feu injuste contre les Algériens et cette marche du 20 octobre qui est passée complètement dans l'anonymat. Et je suis très fière qu'au travers de votre témoignage et de celui de votre maman, on ait pu exhumer cette marche qui, par ailleurs, avait fait la une de pas mal de journaux, ça il faut le dire.
Djamila, c'est une autre femme aussi qui, pour l'histoire, était importante pour vous, que vous la rencontriez, puisque c'était, pour faire le lien avec, et le 17 octobre 61, mais pas que, parce que c'est une femme qui est encore militante, vous l'avez rencontrée, c'était une belle rencontre, je crois.
Ah, une rencontre magnifique. Magnifique, une femme de 88 ans qui a une énergie folle, qui est un modèle aussi pour toute cette jeunesse et cette jeunesse de l'immigration, des femmes qui sont des femmes engagées. C'est vrai que pour nous, c'est très compliqué de nous défaire de cet imaginaire qu'on a installé dans la société française à l'endroit de notre immigration postcoloniale, où on veut voir les femmes comme des femmes soumises, des femmes effacées, qui ne méritent finalement aucune ligne noble dans cette grande histoire de France. Et Djamila, elle est là justement, qui s'inscrit en faux dans cet imaginaire et qui est une femme combattante. Et ce que j'ai trouvé fascinant dans son histoire, c'est qu'elle est mariée, donc mariage arrangé à 16 ans, et que c'est au travers de son engagement dans le FLN, dans la clandestinité, où elle va rencontrer son histoire de femme et s'émanciper et affûter ses armes de femme, puisque la guerre passant, il y a un autre combat qui reste, qui est celui de l'émancipation des femmes.
Et elle poursuit ce travail d'émancipation des femmes auprès des femmes des quartiers populaires. Donc ça correspond tout à fait à votre engagement à vous, puisqu'elle œuvre dans une association en région parisienne, en Seine-Saint-Denis. Donc elle est toujours militante, quoi. Elle n'a jamais cessé, elle aussi.
Et j'insiste aussi parce que ce film-là, malgré tout, c'est un film optimiste. C'est un film qui nous ouvre des perspectives incroyables. Et cette femme qui a été au cœur de cette guerre de libération à sa mesure, pourtant elle n'est pas chargée de haine et de rancœur. Et c'est ça que je trouve fascinant dans ces 4 portraits de femmes, y compris Dalila aussi.
On va parler de Dalila, bien sûr.
On en parlera tout à l'heure. Mais ce que j'ai trouvé extraordinaire, et j'espère que c'est ce qui finalement transparaît dans ce film, c'est la grande humanité, cet universalisme qui est porté par chacune de ces femmes. Et le mot de la fin de Djamila, qui est d'une puissance extraordinaire, où elle dit finalement, oui, j'ai été au cœur de cette libération, j'ai fait une infime partie de ce combat, mais je l'ai mené, mais je ne l'ai pas mené pour nourrir la haine aujourd'hui dans le cœur de nos enfants, mais leur dire que finalement, il faut voir dans chaque être humain son humanité. Il faut voir la part de soi qui existe dans la personne qui vous paraît la plus éloignée de vous. Elle est porteuse aussi de cette humanité. Et dans son engagement associatif, à 88 ans, elle continue d'aider toutes les femmes, n'importe quelle femme.
Dans un quartier de la Courneuve.
Ces femmes qui sont aujourd'hui les femmes migrantes et qui ont besoin de cette main tendue dont elle-même a eu besoin quand elle était jeune.
Dalila aussi, la quatrième femme, sans doute la plus jeune des quatre, il me semble. Qui a un parcours aussi intéressant, elle est journaliste, elle a une histoire qui est liée à l'Algérie, mais peut-être avec une certaine douleur aussi. La rencontrer aussi.
Oui, cette Dalila, moi je l'ai rencontrée lors d'un festival au féminin, à l'île de la Réunion. J'ai sympathisé avec elle à ce moment-là et je l'ai découverte à ce moment-là. J'ai découvert son fabuleux livre que j'invite les auditeurs et auditrices à lire, qui est « Mon père se harkit ». Et je trouve que quand on a des idées toutes faites, d'abord il faut se méfier quand on a des certitudes. Et je trouve qu'à l'endroit des harkis, on a des certitudes et son livre et son témoignage dans le film nous permet de prendre la distance nécessaire pour se dire que finalement l'histoire elle est bien plus compliquée, bien plus nuancée que ce qu'on s'imagine. Et que nous-mêmes, nous avons aussi besoin de sortir de cet imaginaire qui pèse aussi sur nous. Et Dalila, moi, ce que je retiens de son histoire extraordinaire, d'abord, c'est la très grande humilité de ses parents. Et d'ailleurs, elle le dit dans le film, ses parents n'ont... Ce qui a été, le fil qui a tenu, cette colonne vertébrale qui a tenu ses parents, c'est leur très grande foi. D'abord, leur foi en Dieu, mais aussi leur foi dans l'humanité. Et malgré ce cauchemar épouvantable qu'ils ont traversé, très endurant dans des camps
dans
où
des
ils étaient
camps.
Parqués, c'est cette humanité qu'ils ont quand même trouvée dans des personnes comme Juliette, qui a été le premier sourire qu'ils ont trouvé en France, et qui a été dans, encore une fois, ce cauchemar et les tourments qu'ils ont traversés.
Leur vie, et puis la vie des enfants, parce que après, on porte, chacune d'elles porte, que vous l'avez dit déjà par rapport à la transmission, quand on est issu de l'immigration, comme elle l'est, on porte ce qui nous a été transmis ou pas d'ailleurs, mais qu'on sait d'une certaine manière. L'histoire de son père, l'histoire d'un père ouvrier de l'automobile, tout ça, et puis de leur combat, de comment ils ont vécu, tout ça, on le porte, on se construit avec ça.
Oui, bien sûr, et puis c'est notre histoire aussi. Je veux dire, cette histoire-là, elle fait aussi partie de ce récit de l'Algérie. Et je crois qu'on gagne tous, je pense qu'on gagne tous à ouvrir notre cœur et à se laisser porter par ces témoignages, parce que je crois que on en sort différent, et moi-même je suis sortie très différente de ce film. D'abord, j'avais cette admiration pour ces femmes algériennes. Je suis d'origine marocaine, mais j'ai toujours été fascinée par ce militantisme qui était particulièrement porté par les enfants de ces familles algériennes qui étaient mes voisins, mes voisines. Et j'ai compris en fait d'où leur venait cet engagement militant, ces convictions chevillées au corps. Et j'ai encore plus d'admiration au sortir de ce film.
Merci, merci beaucoup Bouchra Azouz pour ce film. Pour être venu ce dimanche matin à Beurre FM nous en parler. Je rappelle que Algérienne en France, l'héritage sera diffusé sur France 2 le 2 novembre à 22h45 et il y aura sans doute des rediffusions. En tout cas, si 22h45 était tard, en tout cas, on peut le voir en replay et il va durer un certain nombre de temps en replay, je crois.
Oui, mais moi j'invite vraiment les auditeurs et les auditrices à regarder le film à 22h45 ouais. Parce qu'on se bat pour faire ce type de film. Et que c'est très important d'avoir un public nombreux qui est
à
au rendez-vous,
d'écoute. Ouais.
Parce qu'on peut pas se plaindre de pas être suffisamment présent sur la scène médiatique. Si quand on fait des films, les gens ne les regardent pas.
Vous avez entendu toutes et tous, on écoute, on regarde Algérienne en France, l'héritage, le 2 novembre à 22h45 sur France 2. Au revoir à tous, au revoir à toutes. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir, Bouchra Azouz.
Au revoir.
Retrouvez Voix au chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM. Beurre FM, 9h-10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi.
Poursuivons notre rendez-vous. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Bouchra Azouz, réalisatrice, et nous parlons de ce documentaire Algérienne en France, l'héritage, qui sera diffusé sur France 2 le 2 novembre à 22h45. Il s'agit d'un portrait de quatre femmes qui sont nées en France ou ayant grandi en France. Elles se racontent, ce livre, une histoire familiale, une histoire personnelle, celle intime dans la grande histoire, celle de l'histoire franco-algérienne, quatre générations, quatre parcours singuliers. Elle s'appelle Jamila, Samia, Dalila et Fadela, qu'on entendra dans un instant. Bouchra Azouz, comment vous les avez rencontrées, ces femmes, et comment elles se sont livrées, le temps que ça a pris, tout ça, dites-nous. Accoucher d'un documentaire, ça prend plus que 9 mois, je crois.
Oui, ça prend plus que 9 mois, mais surtout, c'est émotionnellement, c'est très, très intense, en fait. Parce que c'est une responsabilité hein, d'aller comme ça investiguer l'intime, le plus profond de l'intime de chacune de ces protagonistes. Et comme je vous le disais tout à l'heure sur nos mères, nos daronnes, ça, c'était le cas sur On nous appelait Beurette aussi, puisque je raconte mon histoire et les copines de mon quartier. C'est très important le lien de confiance. Et ce lien de confiance, il faut qu'il soit inscrit depuis longtemps pour moi. Et chacune en fait de ces femmes-là, à l'exception de Jamila que je ne connaissais pas, Dalila, Fadila, Samia, sont toutes des femmes que j'observe depuis des années et pour lesquelles j'ai une très grande estime et une très grande admiration parce que je suis quelqu'un qui est extrêmement sensible à la sincérité et à l'engagement. Et ces femmes-là sont des femmes sincères, engagées, et leur existence et tout ce qu'elles ont fait tout au long de leur vie reflète en fait ces convictions intimes au plus profond d'elles qui, comme moi dans mon propre parcours, viennent de l'enfance. Et d'ailleurs ma sœur qui est aussi chanteuse dit quelque chose de très beau dans une de ses chansons. Elle dit: tout s'exiler, c'est de l'enfance qu'on vient, plus ou moins pressé, plus ou moins blessé. Et c'est ça que j'aime retrouver en fait dans les protagonistes de mes films.
On va prendre Fadela Méal à l'antenne. Bonjour Fadela Méal. Vous nous entendez? Fadela Méal, bonjour, vous nous entendez? Vous allez nous raconter dans un instant votre participation à ce documentaire. Fadela Méal est à l'antenne, on a du mal à vous joindre. Peut-être un mot, Bouchra, en attendant qu'on ait le direct avec Fadela Méal sur son histoire. C'est aussi une femme, comme vous dites, engagée comme les autres, que vous connaissez depuis longtemps, Fadela.
Oui, je suis longtemps et il y a aussi quelque chose qu'il faut ajouter, c'est la très grande modestie et humilité de ces femmes. Et ça, c'est très souvent aussi les femmes, quand elles s'engagent, que ce soit en politique, dans le milieu associatif, hein, ce sont leurs convictions et les valeurs qu'elles défendent qu'elles mettent toujours devant et elles s'effacent très souvent.
Elles n'osent pas parler ? Elles ont...
Et ce film, c'est une manière aussi de les mettre en lumière dans justement leur histoire personnelle. Oui, je pense qu'elles n'osent pas, les femmes. Mais comme moi, d'ailleurs, ça a été aussi mon parcours personnel. Très longtemps, être dans la retenue avant de se dire on peut partager nos histoires parce qu'elles valent le coup d'être racontées.
Est-ce que nous avons Fadela ? Fadela, bonjour. On a du mal à avoir Fadela ce matin. On va continuer avec, on va retrouver sans doute Fadela, peut-être parler d'autres femmes qui sont dans ce documentaire. Fadela?
Oui, je vous entends.
Ah, très bien.
Je vous entends.
Bonjour,
vous
Fadela,
entends.
Merci d'être à l'antenne.
Bonjour.
Ce dimanche matin. Et nous parlons de Algériennes en France, l'héritage. Et vous en êtes de ces quatre Algériennes dans le documentaire de Bouchra Azzouz. Alors justement, Bouchra Azzouz évoque l'engagement des femmes qui sont dans le documentaire. Et vous en êtes. Parlez-nous de vous, Fadela, en quelques minutes. Nous dire un peu cet engagement, ce choix d'engagement.
D'accord. Ben, écoutez, ce que je peux dire, d'abord, je vous fais un grand merci à Bouchra Azzouz, qui a permis à des femmes très diverses, d'ailleurs, de pouvoir témoigner de leur héritage vis-à-vis de l'Algérie. Donc, c'était un moment important pour moi parce qu'en fait, je suis arrivée très jeune en France et je connaissais très, très peu l'Algérie. J'avais peu de souvenirs, c'est ce que j'ai dit à Bouchra. Et c'est vrai qu'à 18 ans, quand j'ai eu mon bac en poche, j'ai eu mon bac à Lille, j'ai voulu retrouver ses racines et faire un peu le point par rapport à cette double identité, à toute cette Algérie un peu mythique que mes parents m'avaient racontée. Et je suis partie à 18 ans à Alger. Et c'est vrai que c'est aussi l'histoire, comment dirais-je, de mes 20 ans, parce que c'est ça aussi que je raconte dans le film. C'est à la fois la rencontre d'un pays, mais c'est aussi la rencontre de la jeunesse. Et donc, du coup, tout s'est un peu mélangé dans le sens où je suis arrivée à une période historique en Algérie. Vous savez, c'était les années 70, on était en train de construire le pays après une longue et dure, lutte de libération. Et donc, il y avait un enthousiasme, il y avait un foisonnement, un bouillonnement impressionnant. Et moi, j'étais impressionnée, j'étais jeune lycéenne, pas du tout politisée.
Et Fadela, et quand vous, au plaisir de voir ce documentaire et d'entendre plus longuement, effectivement, votre parcours, mais un mot encore avec vous, sur votre venue en France. Vous vous engagez en politique, vous êtes une femme militante, associative, mais aussi une élue de la République.
Vous avez raison, Samia. En effet, ce que je pense, c'est que c'est l'Algérie qui m'a construite, politiquement, intellectuellement et surtout socialement. J'ai appris à lutter contre les inégalités là-bas, j'ai appris à demander plus d'égalité et naturellement, quand je suis revenue en France, quand j'ai occupé des postes de premier rang parfois, eh bien, j'ai toujours eu ce point d'appui de faire en sorte de faire un pays qui puisse prôner l'égalité. Et donc, l'égalité, c'était d'abord l'égalité envers les femmes, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup bouleversée. Vous savez, j'ai vécu aussi grâce à la mémoire de ma mère et de ma grand-mère, qui ont été des femmes actives et qui ont essayé d'émanciper, en tout cas commencer par leurs filles. Et c'est vrai que ce creuset algérien était très important et j'ai le perpétué là où j'étais. Et c'est vrai, vous parlez de ma vie associative, j'ai créé après les émeutes des banlieues les Mariannes de la diversité, j'ai été conseillère ministérielle, j'ai été directrice dans un grand établissement public, mais partout, à tout moment et toujours, il y avait de façon viscérale cette envie de l'égalité des chances. Finalement.
L'engagement au corps. Bouchra Azzouz, vous voulez intervenir dans cet entretien avec Fadela?
Oui, je voulais dire quelque chose d'important par rapport à ce film et les raisons pour lesquelles j'ai voulu le faire. C'était montrer aussi de façon assez inédite qu'on pouvait en fait déployer cette histoire de l'Algérie et de la France dans ce qu'elle avait de plus douloureux dans son histoire, pour montrer finalement que de cette lutte qui était portée par des idéaux universels d'égalité, de liberté, de fraternité, de justice sociale, eh bien ces idéaux-là n'ont jamais en fait quitté les héritiers de cette Algérie et qui font la France d'aujourd'hui et la République d'aujourd'hui. Et c'est pour ça que je profite que Fadela soit à l'antenne pour la remercier d'avoir participé à ce film, parce qu'elle montre à quel point la République s'appuie sur cet héritage, sur chacune et chacun de ces protagonistes qui font la République aujourd'hui et qui la nourrissent de ses idéaux. Et c'est ça qui est très important. Et ce film y permet peut-être pour la première fois d'ouvrir cette perspective et de se dire on peut raconter cette histoire dans une perspective constructive, dans une perspective, voilà, d'union. Et c'est peut-être ça qu'on a du mal à faire. Le passé, on ne peut pas interagir sur le passé. Le passé, il est là, il pèse très lourd. En revanche, ce sur quoi on a eu de cesse, nous, d'œuvrer, c'est sur les pages du présent et du futur.
Pour construire l'avenir, effectivement.
Et c'est cela qui est très important, et c'est ça l'enjeu aujourd'hui.
Un mot peut-être, Fadela, sur ce que vient de dire Bouchra Azouz.
Bah,
pour conclure avec vous rapidement, Fadela.
Oui, quand on parle de l'Algérie, on a l'impression que ça a été un fardeau, que ça a été une douleur, que ça a été une cicatrice. Pour moi, ça a été plutôt un moteur. Et je crois que c'est ça que je tire comme enseignement. Et je crois que c'est aussi ça qu'il faut dire. Nos appartenances multiples, elles nous enrichissent, elles nous permettent d'avancer. Elles ne sont pas des freins et en tout cas, elles visent l'intérêt général. Et c'est pour ça que j'ai fait le film avec Bouchra, parce que c'est d'abord aussi... Rapidement,
Fadela, parce que le temps nous presse, parce que vous parlez là en quelques minutes passionnément et avec détermination, mais pour les auditeurs, auditrices qui nous écoutent, on va les inviter à voir le documentaire où vous parlez plus longuement et aussi de votre histoire et de votre parcours. Merci d'avoir été en direct dans l'émission de Voix au chapitre ce dimanche matin. Fadela, à très très bientôt. Je rappelle la diffusion du documentaire algérien en France, L'Héritage, c'est le 2 novembre à 22h45 sur France 2. On vous retrouve dans un instant, Bouchra Azouz, pour la suite de Voix au chapitre.
Voix au chapitre revient dans un instant.
Ça va dans un bon sens, faut pas prévoir à l'avance avant d'avoir la réponse au sujet de la résidence. خسروح كان هني مانيش يلا وغرم ذي ثمرتيش أصلو مورد تمسلتيش كل أسد لي كونفيرانس كل أسد لي كونفيرانس بوري تدي تولي صانس سي فريمون بيان دوماج للراسيزمي للشوماج هوروزمون كيليا ديساج سي لو بريستيج دو لا فرانس. C'est le prestige de la France, c'est la raison d'espérance. Un gars là, le chou de maïwar, des migrés, c'est très belle. Hier, n'a ce sous marchésen, au carnasti, y a de la chance. Au carnasti, y a de la chance, mais ça aide la résidence. Conversation, le chômage, l'immigration. Après les négociations, on attend qu'on nous annonce. On attend qu'on nous annonce. Chaque fois, ça recommence. Ashhala ya gin sabar, fitmur thazit nam lamar. Ma yilla yilzam al safar, azar la différence. أغزر لا ديفيرونس ما يلولاش لا ريزيدونس. الترافاي كون تيلي دور سي بور لي ميغري بيان سور افيك لا كونسيونس بور ديفومون اي لي سوفرونس. ديفومون اي لي سوفرونس سا ميريت لا ريكومبونس. دا نخدم شيطوح في قان عزيزنا مروح ما يلي لزما غنروح الفوسي بير لي كونسيكونس. الفوسي بير لي كونسيكونس يورا بلي دو ريمينونس. ابريتو سامفرا دي بيان درو تورني شي لي ميان جو سويز ان افريكان لو سولاي اون بيرمانونس. Le soleil en permanence, pour moi ça a de l'importance.